BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Bien grand bonsoir à toutes et à tous, il est 20h pile en ce jeudi 13 juin 2024. Bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Que vous soyez en train de nous regarder ou de nous écouter, que vous soyez en direct ou en replay ou en podcast, bienvenue donc dans vos 90 minutes de tech pour cette dernière de la semaine. Avec au sommaire de Tech & Co ce soir, on va parler évidemment beaucoup d'intelligence artificielle. L'IA qui est en train de bouleverser le hardware, c'est ça qui est intéressant. Les PC, les smartphones, mais aussi les voitures, on en parle avec nos experts tout à l'heure. Et puis si vous aviez un doute, un léger doute, eh bien on vous le confirme, OpenAI va très bien puisque OpenAI a doublé son chiffre d'affaires en un an avec des sommes stratosphériques. On en parlera aussi. Puis dernière partie de Tech & Co entre 21h et 21h30, on parlera santé avec l'avenir du jumeau numérique et de cette expérimentation qui est menée en ce moment à l'hôpital américain de Paris. Je recevrai le PDG d'ailleurs de l'hôpital américain et puis une autre start-up très intéressante qui arrive à faire de la robotique avec la chirurgie. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. C'est parti, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et jusqu'à 21h, on débriefe ensemble l'actu tech. Avec ce soir, sur le plateau de Tech & Co, Perle Bagot. Bonsoir Perle. C'est François, moi, François, mais c'est pas grave, il est là, Fred. Mais ça nous arrive tout le temps.
Mais si tu veux, on peut tourner.
Tout le temps.
C'est-à-dire que parfois, c'est toi.
Mais oui, voilà, c'est ça. Mais
vous êtes formidables, tous les deux.
Et puis, François, Fred, il y a Fr au début. Voilà. C'est ça qui est embêtant. Fred, tu devrais changer de prénom. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution.
On va demander à une IA de réfléchir.
Une IA, voilà, pour trouver un nouveau prénom. Ça pourrait être rigolo. Perle Bagot, donc, qui est experte en innovation digitale. Ça fait 15 ans que tu évolues dans ce secteur de la tech. Tu as accompagné plein d'institutions françaises, tu as soutenu des start-up, des entreprises, tu as travaillé avec les grands acteurs de la tech. Bref, n'en jetons plus. Merci d'être avec nous ce soir. À tes côtés, Lucas Perraudin. Salut Lucas.
Bonsoir François.
Fondateur de Muna Digital, que vous connaissez bien sûr, c'est un fidèle de Tech & Co et ancien directeur du Meta Reality Labs version Europe. Tout va bien ?
Très bien.
Voilà.
Merci.
Frédéric Simotel, enfin. Pour la dernière fois, hein, puisque bientôt il s'appellera Christophe.
François, Simotel.
On va essayer de trouver les journalistes. Charles Simotel, journaliste à BFM Business. Et Isabelle Bordrier est avec nous aussi. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Co-fondatrice de Retency, ancienne directrice générale de Yahoo France, entre autres. Voilà, du beau monde pour commenter. Une belle actu, enfin deux belles actus. On va beaucoup parler, vous l'avez compris, d'intelligence artificielle, de Siri aussi, qui, avec la WWDC et l'intelligence artificielle, va devenir sans doute beaucoup plus intelligent. Je le disais tout à l'heure, on parlera des résultats financiers d'OpenAI. J'allais dire du résultat financier d'Elon Musk, plutôt de sa rémunération, qui est plutôt sympathique. Hein. Voilà, c'est un sujet qu'on évoquera aussi. Bref, plein de bonnes choses, mais pour débuter donc, parlons du hardware, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, le moteur de tout cela, évidemment, ce sont ces puces fabriquées pour la plupart par Nvidia, mais après, il faut qu'on ait des appareils pour en profiter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous ces appareils se mettent un peu au niveau de cette intelligence artificielle, que ce soit les PC, que ce soit les smartphones, on l'a vu avec l'iPhone, hein, qui va être boosté à l'intelligence artificielle, et même les voitures, on en parlera dans quelques instants avec Stellantis. Fred, je sais que c'est un sujet que tu voulais évoquer ce soir, tout comme Lucas et tout comme Isabelle et Perle. Qu'est-ce qui se passe en fait ? On a l'impression que ça va redonner un coup de boost à toute l'industrie.
Sans doute, alors on attend toujours ce qui va donner un nouveau coup de boost à l'industrie du PC. Bon, le smartphone, il n'y a pas besoin de ça pour avoir son coup de boost, hein, il suffit d'avoir les quelques innovations, mais c'est vrai que parfois on se demandait comment on ne voyait pas trop les innovations arriver. On se disait, bon, continuer à racheter un iPhone 1500 dollars ou 1500 euros, ou même aller chez les autres et payer assez cher pour faire des meilleures photos, etc. Bon, on ne voyait pas trop l'utilité. Et là, on sent quand même qu'il y a un nouvel élan qui est donné. Et puis, pendant longtemps, on pensait que c'était quelque part, évidemment, c'est du logiciel. Mais on disait tellement, c'est la valeur, elle est dans le logiciel et tout ça. Puis, on a laissé un peu filer ce hardware. Alors, on a laissé un peu regarder regardait partir les fabricants de PC en disant on verra bien où on les retrouvera un jour. On regardait Apple évidemment tout sur la partie smartphone. Et puis là, ben, on voit que le hardware, alors que ce soit au niveau des composants et au niveau des devices, hein, est en train de vraiment de revenir en force et qu'on va continuer à en avoir besoin. C'est-à-dire on aura toujours cette couche logicielle importante. Mais et je trouve que c'est assez marrant de voir au Mobile World Congress, un peu au CES, beaucoup au Mobile World Congress, c'était les PC. On nous met de l'IA partout et on veut repartir avec des Lenovo, des Dell et tout ça. Au passage, on pourra peut-être parler de l'équation, de développement durable de tout cela, ouais. Parce que quand on assemble tout ça, je ne sais pas si on sait du bien pour la planète. Enfin bon, on a nos téléphones qui vont doper à l'IA et puis, mais pas, enfin celui-là, oui, mais pas n'importe quel téléphone. Il faudra avoir le téléphone. Ouais. Donc voilà, allons
donc changer de téléphone
dans les magasins, etc. Allons acheter et puis surtout dans les entreprises, débloquer un peu vos budgets achats parce qu'il va falloir s'y remettre.
Isabelle.
Mais je pense qu'en fait on arrive à la fin d'un modèle, la fin du modèle SaaS. On arrive au bout de la loi de Moore et en fait on n'a plus la capacité aujourd'hui avec le même iPhone d'être encore plus, avoir des capacités équivalentes à prix équivalent. Et donc aujourd'hui tout est dans les data centers et ça a été une vraie révolution avec le cloud. Mais maintenant on ne peut plus tout mettre dans les data centers. Et d'ailleurs il y a même des communes qui refusent d'avoir des data centers, qui deviennent de plus en plus gros et de plus en plus consommateurs d'énergie. Et donc cette nécessité de recréer ou de remettre de la puissance de calcul dans l'iPhone et dans le PC est absolument essentiel. C'est-à-dire que si on veut avoir de l'IA dans Siri, on ne peut pas faire comme aujourd'hui, faire en sorte que le morceau de voix soit envoyé à un serveur, traité sur un serveur et revenir dans notre téléphone. Il faut qu'il y ait une partie de la puissance de calcul qui soit effectivement embarquée. Donc c'est une opportunité effectivement pour les constructeurs,
bien sûr.
Mais c'est absolument essentiel pour qu'on puisse effectivement améliorer et doper, augmenter nos outils.
Perle, Lucas, qui veut dégainer.
Oui, c'est vrai que c'est une opportunité pour les constructeurs. Et là, pour le coup, Apple a un coup d'avance parce que ça a été son parti pris depuis le début. Parce qu'en ayant cette puissance de calcul dans le téléphone, dans le device, ça veut dire que la donnée reste dans le device. Et ça a été un parti pris super fort d'Apple depuis longtemps. Donc là, ça fait quelques mois, on dit oui, Apple est en retard avec l'IA générative, ce qui était effectivement dans une certaine mesure assez juste. Là, pour le coup, effectivement, c'est un marathon, c'est une course de fond. Et ils vont, la valeur et l'élément de différenciation qui faisait vraiment que Apple, voilà, c'est vos données restent dans vos téléphones. Bon, ben, en ayant cette approche-là, aussi cette démarche-là de dire on ressente l'intelligence dans le device directement, Apple, pour le coup, voilà, a vraiment un coup d'avance par rapport à ça.
Il n'y a pas le choix.
Non, il n'y a pas le choix.
Techniquement, il n'y a pas le choix.
Et en fait, on est un peu comme c'est du edge computing, quoi.
C'est-à-dire exactement.
Finalement, on a une partie qui se fait, on va dire, dans le téléphone pour des petites tâches d'intelligence artificielle. Et puis, on le voit, mais on en parlera tout à l'heure avec Siri, hein, puisque Siri va maintenant être connecté à ChatGPT. Là, bien évidemment, quand vous allez, questionner Siri. D'ailleurs, même, je crois que même quand on questionnera Siri d'une manière générale, il faudra attaquer les serveurs, hein, puisque en fait, je crois que l'IA qu'on a sur le téléphone ne suffit pas pour alimenter un Siri, mais Siri pour aller aussi se connecter à ChatGPT. Lucas, sur ce sujet que tu connais bien, t'écoute.
Je suis désolé, mais je suis absolument pas d'accord avec tout ce qui vient de cette.
Mais j'adore Lucas. Vraiment, quand il n'est pas d'accord avec nous, c'est bien.
Pas du tout, parce que, enfin, pour connaître l'état de l'art des modèles et leur niveau de stabilité. L'histoire de faire du local computing sur des LLM, nous on en fait. Hein. Moi, je discute avec mon C-Drive avec mon disque dur depuis quelques mois déjà. C'est un peu, alors, dans l'état de l'art d'aujourd'hui, c'est une fable. C'est-à-dire que ça sert surtout à essayer de revendre des smartphones à Apple. Son record, c'est 2015, de 231 millions. Ils ont fait 231 millions l'année dernière en iPhone. Ça plafonne parce qu'effectivement, le bénéfice marginal d'investissement, il n'est pas 1,14 versus 1,15 versus 1,16. Ce ne sera pas très différent. Donc, il faut avoir une histoire à raconter pour renouveler le hardware. Les fabricants de PC, c'est la même chose. Hein. On a fait 20 ans d'HP. moins 28 l'année dernière. Year over year, moins 30%. En gros, là, ça fait un peu de croissance à 1%.
Il y a eu le boom pendant le Covid. Et puis après, le marché s'est effondré.
On est sous les niveaux pré-Covid. On va peut-être arriver au niveau pré-Covid prochain quarter, mais ce ne sera pas formidable. Et donc, ils ont besoin de raconter cette histoire. Mais la réalité, c'est qu'une expérience qui a... l'expérience Apple, Déjà, bon, Apple Intelligence, je vous passe mon commentaire sur le...
Ah non, mais justement, pourquoi tu en passes ? On passe pas dessus ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense que c'est ridicule. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais je pense que Apple a eu cette habitude de relabeler les choses à sa sauce, qui parfois a du sens, basé sur un usage. Mais là, Apple Intelligence, ça c'est vraiment... ça va trop loin pour moi en termes d'hypocrisie. Ouais, c'est vraiment voilà. Pour moi,
c'est
ça passe la ligne pour moi.
J'imagine que tu as suivi cette WWDC. Il y a quand même des fonctions. Alors, pas forcément d'intelligence artificielle générative, mais plutôt de DIA qui est intégrée dans l'OS, qui va nous permettre de résumer des mails. Il y a plein de choses sur les notes.
Nous simplifier la
enregistrer les conversations téléphoniques pour après les retranscrire et en faire des résumés. Enfin, il y a plein de choses.
Ça, c'est une découverte pour les utilisateurs d'iPhone. Les utilisateurs d'Android, c'est une vieille histoire.
Oui, tu as raison. Sauf que là, c'est encore mieux intégré. Et ça, tu peux pas dire le contraire.
Peut-être.
C'est vachement bien intégré dans iOS.
Simplement.
Sans doute mieux qu'Android.
Simplement, compte tenu de la maturité de l'intelligence artificielle dont on parle, en gros, ça fait du local sur le chipset, si vous avez un M, hein, pour parler un peu techniquement. Ensuite, quand il est en overflow, c'est-à-dire qu'il est dépassé par ce qu'on lui demande, il va taper sur un serveur Apple qui réplique votre environnement privé et qui répond. Et si ça ne marche pas, on vous demande si vous voulez parler à ChatGPT et puis plus tard à Gemini. Or, il se trouve que les capacités de ces modèles, elles sont hyper fluides. Les capacités d'intégration de votre environnement privé, elles sont hyper fluides. Et c'est beaucoup trop tôt pour répondre à la question d'avoir un three-step computing comme ça, en trois étages. C'est une belle histoire, mais c'est pas viable aujourd'hui.
Ce que tu as déjà en entreprise. Pardon. Tu vas avoir des sortes de portails. C'est-à-dire, pour chaque usage, tu vas avoir un peu un style. Tu vas aller chercher l'IA qui correspond à ton usage. Et pour ça, tu vas avoir, parfois, si c'est juste la transcription de texte, ça ira sur le directement sur smartphone.
À chaque release de modèle, tu vas obsoléter ça. Parce qu'aujourd'hui, ça bouge trop vite. Oui. Et le trade-off de local versus cloud-based, aujourd'hui, je vais avoir un GPT-5 et ça va devenir insupportable de faire du local parce que la performance de mon cloud-based sera trop... Donc il faut qu'on asymptote la performance des modèles avant de faire ça.
Et ça dépend de ce que tu lui demandes de faire.
Mais toute l'idée et tout l'enjeu, c'est aussi l'écran. C'est-à-dire, je pense que l'interface de l'écran aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça va marcher, mais est très challengée. C'est-à-dire que si effectivement Siri devient plus intelligent, si on arrive à parler à sa montre ou à ses lunettes ou
à ses AirPods,
à sa voiture, pour lui demander d'envoyer un email, pour lui demander de synthétiser une conversation téléphonique que je viens d'avoir, tout l'enjeu est là en fait. L'enjeu est de se dire, on va créer des nouvelles interfaces. Alors après, est-ce que les gens vont se les approprier ? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'applications et de développeurs qui vont se les approprier ? Effectivement, tout est à écrire. Mais je pense que c'est une vraie rupture. Je pense qu'il y a une rupture en termes de capacité. Je pense qu'il y a des ruptures en termes de capacité de calcul, de capacité d'énergie et de data center. Aujourd'hui, on ne peut plus tout faire avec l'existant où il faudrait recouvrir des terres entières de data center. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, il y a effectivement ce jeu de l'interface. En étant à l'intérieur d'un Apple, c'est-à-dire quasiment aujourd'hui d'un milliard de personnes dans leur intimité des 4 heures par jour que l'on passe sur son téléphone, il va y avoir des nouveaux usages qui seront peut-être liés à la voix et qui vont nous permettre de créer effectivement de téléphoner de manière très simple, de communiquer.
Mais ça, c'est pas incompatible. Ça et la discussion d'infrastructure, qu'il y ait un changement d'interface et un besoin d'interface plus fluide, aucun problème. La question, c'est quel type de service on appelle et quel type de stabilité on a sur ces services pour pouvoir les ancrer dans le hardware. Hardware, c'est dur et ça prend du temps. Donc il faut plus de stabilité que ce qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un pari.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la puce qu'il y aura dans l'iPhone 16 ne sera pas assez puissante pour faire tourner un LLM qui sortira l'année d'après. Donc ce qui fait que toute cette intelligence sera déportée dans le cloud.
Ou alors gap entre le local et le cloud-based deviendra tellement insupportable pour l'utilisateur parce qu'on a des choses tellement meilleures qu'on ira chercher dans le cloud. Et la privacy, alors c'est vrai que l'intégration est difficile.
Mais ça dépend des tâches que tu lui fais faire. Enfin,
et puis, aujourd'hui, l'évolution des infrastructures, des technos va tellement vite qu'on peut considérer que voilà, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, on aura réduit ce gap entre...
Ça peut aller dans les deux sens, mais pour prendre ce pari du hardware aujourd'hui, c'est trop tôt. Par contre, le edge computing, il est... fortement poussé par tous les acteurs de l'AR et de la VR, parce qu'on a besoin d'edge computing pour faire de l'AR et de la VR en temps réel.
Mais même les
Donc cette infrastructure-là, elle arrive quoi qu'il en soit. Je crois beaucoup plus à plus d'edge computing, des devices qui sont de plus en plus smart, mais pas un besoin de renouvellement comme celui qu'on nous vend.
Tiens, juste, alors, on a évoqué le PC, on a évoqué le smartphone et notamment l'iPhone. Alors, l'iPhone n'est pas le seul, hein, puisque Samsung a aussi développé toute sa stratégie IA et tous les constructeurs vont s'y mettre. J'aimerais qu'on s'intéresse à la voiture maintenant, parce que Stellantis mise aussi sur le software depuis sa création en 2021 et l'entreprise a monté, en fait, une business unit autour du logiciel et des services connectés. Et aujourd'hui, il faut le savoir, 6000 personnes travaillent pour cette entité qui a de grandes ambitions et vous verrez, il y a de l'IA, le reportage de Justine et on revient juste après.
Le software chez Stellantis, cela peut être ChatGPT qui raconte une histoire aux enfants dans la voiture.
Okay, Iris. Could you tell me a story?
Once upon a time, in the beautiful city of Chicago.
Yves Bonnefond est le Chief Software Officer de Stellantis.
Dans cette DS3, vous avez ChatGPT qui est votre assistant vocal personnel à l'intérieur de la voiture, qui peut vous donner tout un tas d'informations sur ce qu'il y a autour de la voiture.
Aujourd'hui, plus de 13 millions de voitures de Stellantis sont équipées d'une manière ou d'une autre de software. L'innovation doit être permanente.
Le téléphone va récupérer en temps réel les données de la batterie du véhicule en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez, de la température extérieure, etc. et va éventuellement vous rerouter en temps réel vers les stations de recharge en fonction de la disponibilité des stations de recharge, en fonction aussi des dernières informations sur la puissance de recharge de ces stations pour vous faire le trajet le plus court possible.
Face à des concurrents comme Tesla, Stellantis, qui n'est pas en avance dans la bataille du software, a un avantage.
Le software, c'est une industrie de coûts fixes. Vous développez une version logicielle et une fois que vous l'avez développée, vous la déployez sur l'ensemble des marques, l'ensemble des véhicules. Et donc, la taille de Stellantis se prête très 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 bien à l'intégration du software en interne.
Stellantis, comme souvent, a des objectifs très ambitieux. Le software devrait représenter, selon le groupe, 15% de son chiffre d'affaires en 2030, soit 20 milliards d'euros.
Voilà, reportage donc de Justine Vassogne. Et de la même manière, on voit que le hardware va être mis à jour aussi dans les voitures pour pouvoir avoir ChatGPT. L'exemple est assez sympa d'avoir une histoire pour des enfants créée par ChatGPT quand on a 2 ou 3 heures de route. Et c'est simplement un petit exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, c'est une autoroute pour l'industrie de l'automobile, mais ça va être assez impressionnant, non?
Ça fait quelques années maintenant qu'on voit effectivement typiquement les constructeurs automobiles au CES qui passent des partenariats très importants avec à la fois des acteurs comme Nvidia ou des acteurs type de l'entertainment, des Disney, ce genre de choses, parce qu'effectivement on revoit complètement l'expérience dans la voiture. Et là on vient ajouter une brique supplémentaire. Là pour le coup, moi je suis beaucoup plus sceptique sur la voiture. C'est quand même une grosse machine, et la mise à jour et la capacité à pouvoir justement à chaque fois faire évoluer la mise à jour de ces logiciels dans une voiture, dans un contexte où tout va vite, comme tu le disais tout à l'heure, elle me parle beaucoup plus là dans le cadre de la voiture que par rapport au téléphone ou à l'ordinateur.
Lucas,
c'est une bataille de gatekeeping. Plus c'est parce qu'en fait la question c'est qu'est-ce que mon Android Auto ne peut pas faire que ma voiture Stellantis pourra faire. Et donc, Musk, il a choisi de... On ne peut pas faire Apple CarPlay ou Android Auto parce qu'il veut avoir toute la data. Donc, lui, c'est une société de tech. Et toutes les sociétés qui ne sont pas de tech doivent jouer le jeu d'Android Auto et Apple CarPlay. Et là, ce qu'on voit, c'est plutôt une stratégie de gatekeeping qui disent... Je suis désolé, je parle très mal français.
Parce que tu vis à Londres et tu ne parles plus français, en fait.
C'est vrai, mais ça n'est pas une excuse. C'est ma langue natale. L'idée, c'est, est-ce qu'une alliance... Là, il parlait c'est assez naïf. Le software, c'est un coût fixe. Non, le software, c'est un amortissement. Mais en tout cas, c'est une alliance avec un ChatGPT, qu'on va appeler dans le cloud, évidemment, et qui donne un peu de gatekeeping. C'est-à-dire qu'on se sert de la voiture comme interface. Et là, on revient sur les nouveaux cas d'usage. Ça, on est tout à fait d'accord que les interfaces changent. Donc, c'est un peu gadget. La question, c'est si dans tous les véhicules Stellantis, on downgrade la capacité d'Android Auto, alors ça devient obligatoire, alors il y a une chance. Mais là, on va vers une fragmentation en fait, des devices, qui est une autre question derrière.
Fred ou Isabelle. Isabelle et après Fred.
Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a 20 ans, quand j'étais chez Yahoo, même 25 ans quand j'étais chez Yahoo, on avait déjà des discussions avec les constructeurs automobiles. Et la grande idée, c'était de savoir si ça allait être
un téléphone, et là on l'imaginait même pas à l'époque, parce que ça nous paraissait, l'iPhone a tout révolutionné quand même, et donc on était bien avant l'iPhone. Donc là c'était effectivement de l'embarquer dans la voiture. Et puis depuis maintenant 20 ans, 15 ans, je ne sais plus quel âge à l'iPhone, c'est devenu effectivement l'iPhone qui a repris le lead. Et là, on revient sur ce qui avait été effectivement imaginé au départ, c'est-à-dire mettre de l'intelligence dans la voiture. C'est ce que fait effectivement très bien Tesla. Stellantis est obligé, pour se différencier, d'avoir une réponse. Est-ce que c'est une réponse pertinente? Je pense qu'ils vont être très dépendants de ChatGPT, ce qui me paraît effectivement une faiblesse, surtout quand on est dans une voiture. Voilà.
C'est plus un narratif pour les investisseurs.
Je pense que c'est une évolution qui est effectivement importante.
Tu penses que c'est plus une accroche marketing?
C'est l'investisseur narratif, ouais.
Sincèrement, raconter une histoire dans la voiture, je trouve que c'est dommage que ça soit pas la maman ou le papa qui raconte une histoire. Si ChatGPT est là uniquement pour raconter des histoires ou synthétiser des mails, ils ne vont jamais arriver à valoriser la valeur qu'ils ont aujourd'hui. Donc il est nécessaire de trouver d'autres applications. Donc effectivement, celle qu'il évoquait sur la synchronisation de l'entièreté des indicateurs de la voiture peut être un sujet, etc.
Je
ne
sais pas ce que tu en penses, Fred, mais je trouve que en fait, l'intelligence artificielle générative dans une voiture peut avoir du sens si elle est connectée en fait aux fonctions importantes de la voiture.
Il faut un agent, il faut qu'il fasse de l'agentic AI. Ouais.
Je sais pas, imaginez, on part en voiture tous.
Les pneus sont bien gonflés plutôt que regarder le truc. Bon,
voilà, et puis se dire, tiens, on arrive dans 30 minutes, tiens, trouve-moi une pizzeria dans un environnement.
On fait déjà ça.
Ouais,
excuse-moi, avec Android Auto, tu fais déjà ça.
Mais à la voix, comme ça, d'une manière très simple, avec une. D'accord, ok, tu vois. Moi, j'ai pas Android Auto, je suis de l'autre côté, tu vois, mais ça le fait pas.
Je lui dis, trouve-moi une station-service sur le chemin, il me propose, et puis en discutant.
Voilà, mais là, c'est l'interface de la voiture. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est de savoir qui génère. C'est l'interface homme-machine. Mmh. Est-ce que c'est le téléphone ou est-ce que c'est la
voiture?
C'est
ça, c'est le gatekeeping.
Et quelle est la valeur ajoutée apportée par le fait que ça soit la voiture?
Mais je pense que, et là il faut s'inspirer d'un autre sujet dont on voulait parler. Moi il y a deux choses. La première, c'est quand on est dans la voiture, je pense que la prochaine étape c'est la maison aussi, on va parler à sa maison. Et puis je reviens toujours à ce qu'a dit Bill Gates il y a 3 ans. Il a dit un jour, on va oublier totalement les applications, il faudra voir lesquelles se mettent en avant et on parlera tout simplement. Et je pense que là on est en train d'arriver à ça. Et si Apple dit à OpenAI, attendez, on ne vous reverse pas d'argent comme on en reverse à Google ou alors enfin un minimum. C'est parce qu'ils vont dire à OpenAI, mais débrouillez-vous maintenant, allez discuter avec tous les autres, faire les liens, et je vais rentrer dans ma voiture, puis je vais dire, bonjour voiture, emmène-moi, je vais au 13 rue Machin à Lyon, emmène-moi, et je n'irai pas chercher Waze. C'est OpenAI qui sera allé chercher Waze ou le meilleur, et c'est lui qui va se servir d'argent.
C'est un peu comme le deal moteur de recherche Google, Apple. Ils ont intérêt à bien financer, alors c'est dans l'autre sens, OpenAI, pour pas qu'OpenAI aille créer d'autres points d'entrée si OpenAI devient l'application en rétention.
Ne me cramez pas mon sujet, parce qu'on va en parler juste après les infos de celui-là. mais c'est important, c'est le modèle économique, parce que on l'évoquera juste après l'info. Il n'y a pas eu d'accord financier entre Apple et OpenAI. Mais laissez-moi quelques minutes, on va y revenir dans quelques instants. Il nous reste de 45, j'aimerais qu'on évoque quand même aussi la seconde jeunesse de Siri, qui visiblement va passer dans une autre dimension. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, Isabelle. Et c'est vrai que là, Siri va devenir plus sympathique, on va dire, et en tout cas plus pertinent. Est-ce que tu penses que ça va changer les usages, Lucas, qu'on peut avoir justement avec un assistant vocal?
Oui, alors moins pertinent, ce serait difficile, donc plus pertinent, ça va être possible, surtout par rapport à ce qu'on sait de l'état de l'art. Oui, je pense que ça va changer. Alors là, Apple est un vrai gatekeeper, et s'ils arrivent à intégrer les apps et avoir des fonctions des applications dans cette conversation, évidemment, à mon avis, on va avoir une explosion de l'utilisation.
Ouais.
Quelqu'un là-dessus?
Oui, moi je pense que c'est un vrai enjeu. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que peut-être que dans 5 ou 10 ans, s'il y a suffisamment effectivement d'applications et de développeurs qui se saisissent de l'opportunité, on ne regardera plus un écran. Et on pourra parler à sa montre, à sa voiture, à ses lunettes. Et ça change tout en termes d'interface. C'est-à-dire que donc c'est vraiment une relation homme-machine qui est extrêmement différente, beaucoup plus fluide. Et je pense que ça va créer une vraie rupture, de la même manière que la rupture qu'on a eue en embarquant un téléphone avec de la data dans la poche.
Je fais ça toute la journée. Oui, je parle à mon téléphone toute la journée,
il me répond. Donc ça va s'améliorer.
On va dire que tu es un early adopter, ouais. Tu as travaillé chez Meta, chez HP.
Ça marche hyper bien. Enfin, sur Android, et alors pour sans faire de pub, sur un device Google Pixel avec Voice Recognition Google, c'est extrêmement performant.
Qui est un peu l'état de l'art de l'IA chez Google en ce moment, le Pixel 8.
Et la reconnaissance vocale de GPT est incroyable.
Ah oui.
Incroyable.
Mais après, je pense que l'enjeu, c'est les doubles commandes. C'est-à-dire, pardon. C'est de dire, c'est de pouvoir parler et de pouvoir commander du type « trouve-moi mon billet de train, vérifie effectivement qu'il y a une station-service, appelle la station-service pour vérifier qu'elle est ouverte. »
Mais après,
couverte.
C'est même plus lui parler, c'est lui qui va se débrouiller.
Absolument.
Il va regarder à partir de l'agenda, il va faire tout le reste.
Et à partir de là,
certaines fonctions qui seront...
peux-tu vérifier qu'il y a effectivement que ma grand-mère...
Et juste pour l'anecdote, moi je trouve que c'est une excellente idée de ne pas avoir débaptisé Siri, de l'avoir laissé Siri. Mm. On aurait été perdu, tout ça, il y aurait eu un AI, un tennis.
C'est mieux que Bart et Gemini.
Apple Intelligence.
Là, au moins, oui, voilà, c'est un Siri. Voilà, on va lui redonner un nouvel élan, une nouvelle jeunesse. Et tu sais, à l'époque, l'autre jour, on se disait est-ce qu'il faut changer de nom.
Oui, c'est vrai, mais ça reste Siri.
Non, faut rester sur Siri. Puis voilà, on lance le.
Perle, avant l'info.
Non, effectivement, je pense que le sujet, c'est moins la reconnaissance vocale qui est déjà effectivement optimale. Tu peux faire déjà aujourd'hui plein de choses, que plutôt la profondeur des informations que tu vas pouvoir récupérer, ce que tu vas pouvoir déclencher, créer à nouveau, et comment finalement, en fait, tu vas... ça va être un assistant personnel au sens humain du terme. C'est-à-dire qu'on va être dans une commande, dans un langage naturel permanent, un échange, plus que demander de faire une action, tout simplement.
On va revenir dans un instant, il est bientôt 20h30, l'info éco, et on reviendra aussi sur cette info étonnante. Apple ne payerait rien à OpenAI, il n'y aurait pas de redevance. Alors qu'on le rappelle, il y a un accord Siri, ChatGPT. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Est-ce que ça va durer ? On vous posera la question. Et puis après, on évoquera les résultats financiers d'OpenAI qui sont plutôt excellents, puisque OpenAI a doublé son chiffre d'affaires en 6 mois. On évoquera aussi la rémunération d'Elon Musk, qui a réussi son coup quand même, 56 milliards. C'est juste pour vous, voilà, pour mettre dans le bain. Cela dit, il a peut-être quelques dettes avec Twitter, etc. On en parlera là aussi dans quelques instants. Bientôt 20h30, l'info éco, et on revient avec Perle, avec Isabelle, Lucas et Frédéric. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour du débrief de l'ActuTech jusqu'à 21h, et puis juste après on parlera beaucoup de médecine et de tech ce soir avec cette expérimentation qui est menée à l'hôpital américain de Neuilly, et puis aussi la robotique qui arrive dans la chirurgie avec une start-up qui est franco-américaine et qui arrive à faire des opérations grâce à des robots aujourd'hui. C'est évidemment impressionnant, on rentrera dans les détails tout à l'heure. Pour débriefer l'actu ce soir, bien sûr, Isabelle Bordrier est avec nous, cofondatrice de Retency et ancienne directrice générale de Yahoo France. Perle Bagot, qui est experte en innovation digitale. Nous avons Lucas Perraudin, fondateur de Mula Digital et ancien directeur de Meta Reality Labs. Et Frédéric Simotel. Alors, bah justement, on va parler maintenant de ce deal un peu secret quand même, qui a été conclu entre, d'un côté, Apple et OpenAI. On a beaucoup parlé justement de l'arrivée de l'intelligence artificielle chez Apple juste avant les informations. Est-ce que vous avez une petite idée de ce deal ? Parce que visiblement, Fred, il n'y a pas d'argent. Entre...
Mais alors ça,
on aurait pu imaginer
qu'Apple
allait...
c'est pas ni Apple ni OpenAI qui ont communiqué, c'est via Mark Gurman qui est l'un des...
Oui, qui en général est très bien informé.
Oui, très bien informé, c'est toujours lui qui donne les meilleurs
informations. Et lui dit que Apple n'aurait pas versé de redevance à OpenAI pour connecter Siri à ChatGPT.
Oui, ils auraient dit tout simplement, écoutez, on va diffuser tellement votre marque OpenAI, tellement votre logiciel que vous allez pouvoir atteindre un public jamais égalé, et puis vous rémunérer, peut-être sur ce qui, s'ils veulent la version payante de ChatGPT, comme ça vous pourrez vous rémunérer. Et puis vous pourrez vous rémunérer si des gens viennent connecter les API sur de l'OpenAI et vendre leurs services pour qu'ils apparaissent en premier dans OpenAI. Eh bien, allez-y. Donc voilà, c'est le deal. Alors, ce qui est un peu étonnant, parce que de l'autre côté, OpenAI, alors tu l'as dit tout à l'heure, des revenus alors en 6 mois qui ont doublé à 3,4 milliards, mais ça veut dire que derrière, ils consomment énormément de requêtes, et que là, ça coûte quand même un peu cher. Oui.
C'est Microsoft qui va payer, non, en plus ? parce que c'est sur les serveurs de Microsoft.
C'est ce qu'on va voir.
Isabelle, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle un deal de distribution. C'est des deals de mise en avant du produit auprès des utilisateurs. Et je pense que là, l'enjeu, c'est les usages. ChatGPT doit trouver un modèle économique qui le sorte de synthétiser un email, raconter une histoire ou élaborer pour un jeune lycéen une rédaction sur un sujet où il y aura probablement énormément de fautes. Et donc il faut qu'il puisse sortir de ce modèle sur lequel il ne pourra pas à long terme justifier 100 milliards de dollars de valorisation. Et donc pour ça, il faut qu'il s'intègre dans les usages de la vie quotidienne. Et Apple, avec le téléphone, alors il y a aussi effectivement Google et Android, est vraiment un objet intime de notre vie. Et donc s'ils arrivent, grâce aux développeurs et aux applications, à pouvoir offrir des usages qui transforme complètement notre vie quotidienne, ils auront gagné la bataille. Donc c'est effectivement le pari qu'ils font, mais je pense que c'est absolument essentiel pour pouvoir grandir. Et le simple fait, et Apple l'a déjà démontré, d'ouvrir un système, de laisser des développeurs imaginer des nouveaux usages, va leur permettre de grandir et j'imagine très clairement de pouvoir commercialiser leur système.
Et puis ils veulent ouvrir aux autres. Hein. Derrière, on va.
Oui, il y aura Gemini,
il y aura Claude et tout ça.
Oui, oui. Donc, tu commences avec la superstar de l'IA. Aujourd'hui, oui, voilà. En fait, voilà, vaut mieux commencer avec.
Il a peut-être pu jouer la concurrence aussi un petit peu en disant attendez, si vous voulez payer trop cher, on va aller chercher les autres.
Enfin. Et il n'y a pas de coût d'acquisition. Un coût d'acquisition pour un logiciel SaaS, c'est très cher. C'est-à-dire, quand vous voulez valoriser un produit, il faut que votre service soit effectivement impeccable. Ouais. Là, vous n'avez pas de coût d'acquisition. Vous êtes directement plugué avec l'utilisateur final.
Moi, qu'est-ce que tu en penses de ce deal ?
La question que je me pose, c'est pour combien de temps ? Combien de temps ce deal potentiel, hein, puisqu'il n'a pas été confirmé, est viable en fait. Parce qu'effectivement, là, il y a un enjeu pour OpenAI et ChatGPT vraiment de rentrer dans les usages au plus proche. Apple est un bon partenaire pour ça, mais je veux dire, on peut pas croire que ce modèle, en tout cas, peut durer dans le temps. Donc, combien de temps et quelle est l'étape d'après et comment, en fait, surtout Apple va. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'il sorte de l'argent.
C'est comme l'App Store, ils vont faire zéro pendant un an et puis 30% dans,
Lucas,
dans un an.
On donne la parole à Lucas, puis bien après sûr. Vous reviendrez bien évidemment. Lucas, est-ce que tu penses que la marque Apple est tellement puissante en fait que ChatGPT a accepté ce deal en fait de un deal plutôt win-win de partenariat qu'un deal financier
et une codépendance. Là, on est en train d'assister si ChatGPT garde son temps d'avance. Si OpenAI, on est en train d'assister à la création d'une codépendance qui est du domaine de ce qu'on a entre Apple et Google sur le moteur de recherche. Donc ne pas se marier, c'est intéressant pour les deux si chacun pense qu'il est plus fort que l'autre dans le temps. C'est-à-dire que, on parlait des coûts d'acquisition dans ça, c'est vrai, mais pour le coup, ça n'est pas vrai. C'est comme Tesla dans l'automobile. ChatGPT n'a pas besoin de faire de marketing pour acquérir des clients ou des utilisateurs parce que l'usage est tellement révolutionnaire et je pense qu'il dépense $0 en marketing aujourd'hui.
Un usage qui est très faible aujourd'hui, sincèrement. Enfin, qui s'améliore.
C'est l'application dans l'histoire de l'humanité qui a eu la plus grande progression, qui a le plus fort taux de rétention.
Bien sûr, aujourd'hui, en termes de création de valeur, c'est synthétiser des mails.
C'est beaucoup plus que ça.
Oui.
Modèle économique.
Alors, termine là-dessus sur Apple et sur le ouais. Parce que là, on part dans
donc
tous les
là,
sens.
On a une codépendance qui se crée. Ils s'observent et je pense que c'est bien qu'ils observent. Ça fait effectivement l'utilisateur Apple est plutôt conservateur et pas très aventureux sur la tech. Donc, ça permet de crédibiliser. Et c'est le modèle gratuit. Apple a un espoir secret qui est que les développeurs vont loquer le modèle dans son écosystème et qu'après, à chaque fois que OpenAI vendra une licence, ils en prendront 30%. OpenAI a une idée comme quoi, s'ils passent à des milliards d'utilisateurs, ils pourront en mettre partout et Apple ne sera plus qu'un gatekeeper. Donc, c'est deux mastodontes, deux géants qui s'observent et ils ont choisi de s'observer comme ça. Ça peut durer longtemps. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, les prochaines étapes d'itération sont toujours logicielles, elles sont toujours dans les modèles. On parlait des coûts d'inférence. Les coûts d'inférence, ils vont dégringoler. Ils ont déjà dégringolé 4 os et d'inférence qui est 3 fois moins cher que GPT-4. Donc,
L'inférence, voilà. Rappelons-le, c'est le fait de scroller le web pour...
Utiliser un modèle d'AI. D'accord. On a le training d'un côté qui est extrêmement cher, et là, c'est difficile de faire baisser les coûts, et encore qu'il y a plein de choses avec les données synthétiques. L'inférence, c'est je fais une query dans OpenAI, qu'est-ce que ça consomme,
okay.
Et l'optimisation du code pour que ce soit beaucoup moins consommateur en puissance est en route, et ça va très vite.
Mais ça me rappelle cette guerre qu'il y a toujours eu, enfin, et qu'il y a encore, hein, d'ailleurs, ça a été l'objet de discussions sur la libre concurrence, entre être la première page du PC, être la première page de son téléphone portable. Google a été, pendant de très nombreux cas, la première page des ordinateurs quand on l'ouvrait. Mmh. Et c'était des deals de distribution. Et c'était des places qui, effectivement, valaient cher. Alors après, c'est l'usage qui fait la différence. On ne garde Google en première page parce que Google est effectivement efficace en fonction où on garde...
La question, c'est qui a le plus de force.
Voilà. Et donc, c'est celui qui apporte le plus d'usage.
Quand on sait que Google verse, je crois, 18 milliards de dollars par an à Apple pour être, justement, comme tu le disais, le moteur de recherche par défaut du navigateur Safari, on voit quand même que ça a un intérêt pour lui.
La base installée iPhone est extrêmement monétisable, donc ça rapporte beaucoup en publicité.
Bien sûr.
Et ça empêche Apple de développer un moteur de recherche.
Non, mais...
Donc, c'est la place qui est prise et un morceau de la non négligeable.
Puis s'il y avait eu un accord financier trop fort, faut voir que c'est un accord au niveau mondial. Il y a peut-être un souci, c'est en Chine. Comment on fait? Parce que tu as les iPhones en Chine et tu n'aurais pas OpenAI. Enfin, tu vois, s'il y avait un accord. Là, c'est un accord de distribution. On va dire, les gens en Chine ne peuvent pas l'utiliser. Bon, tant pis. Mais tu imagines un truc où on avait un peu verrouillé tout ça. OpenAI aurait pu dire, dis donc, pourquoi mes utilisateurs chinois ne peuvent pas utiliser OpenAI?
Est-ce que c'est pas aussi pour OpenAI le secret espoir de se dire, je vais me retrouver avec des millions, des dizaines, des centaines de millions d'utilisateurs? Il y en a peut-être 1% qui vont me prendre l'abonnement payant à $20.
Bien sûr.
Et ils font le pari qu'ils sont convaincants. Exposer à plus de monde.
Et même dans le partage de valeur sur la monétisation, ce que je disais tout à l'heure, avec un Waze, avec les trucs de réservation.
Et c'est sûr que là, Apple est une espèce d'aspirateur à clients potentiels en échange de... C'est presque du freemium, quoi, finalement, cette histoire-là. Ouais. Non, Perle.
C'est la machine marketing pour OpenAI, en fait, Apple.
C'est du marketing gratuit.
Ouais, c'est ça.
C'est rentré dans 1 milliard de vies.
Mmh. C'est ça.
Mais quotidienne.
Le business model d'OpenAI, si je peux revenir là-dessus, les abonnements, c'est bien, mais ce qui rapporte de plus en plus et qui va être une manne gigantesque pour OpenAI, c'est l'utilisation par les entreprises de ses capacités. On parlait de Stellantis tout à l'heure. On disait, ce qui serait bien, c'est que ma voiture sache où en est la pression de mes pneus. Bon, ça s'appelle un agent AI, c'est-à-dire que Le modèle de langage, il a la connaissance du monde, mais il ne connaît pas la pression des pneus. Aujourd'hui, on développe des agents, nous, c'est ce qu'on fait pour les entreprises. Il va interroger, il sait faire une query, aller interroger la donnée de pression des pneus, la ramener, et interpréter, avoir une conversation et utiliser son modèle de langage.
Donc il apprend tout seul, en fait.
On fait de l'augmentation du langage.
D'accord.
Donc il y a plusieurs techniques. Soit on va faire des queries sur le système, soit on fait ce qu'on appelle du RAG. On rajoute de la connaissance qu'il n'a pas, et on fait de la diminution du contexte pour pas qu'il ait d'hallucinations. Et ça se fait par étapes. Donc on va interroger la pression des pneus, elle retourne. Le LLM a une discussion avec lui-même, hein, c'est ça qui se passe. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut répéter cette question plusieurs fois? Et ensuite, il va venir vers nous en disant, attention, la pression des pneus est faible. Et on l'a programmé pour dire, qu'est-ce qu'on doit faire si la pression des pneus est faible? On doit trouver la station-service la plus proche. Donc, au lieu de poser, il dit, la pression des pneus est faible, la station-service la plus proche est celle-ci, il te reste en essence. Et ça te coûtera moins cher d'aller là-bas. Voilà.
Quelle histoire, j'espère que ça marche, hein, ta pression des pneus, parce que là, avec tout ce que tu nous as raconté,
Mais tu disais tout à l'heure que ta source de calcul coûte moins cher, mais mine de rien, s'il commence à avoir de plus en plus d'utilisateurs, il y a un moment, ça coûte quand même de l'argent.
C'est cette course-là qui est engagée. Ouais.
C'est pour ça que déporter un peu de la puissance dans le PC téléphone, ça fait sens. Mais effectivement, ces agents intelligents, on nous les a promis et on les attend depuis pas mal d'années. Et là, ça y est, ils marchent. Et ce que fait exactement Red Si aussi, hein, c'est la capacité de pouvoir interroger en temps réel des bases de données clients en langage naturel avec.
On fait de l'augmentation du savoir spécifique.
Exactement. Quoi.
Et ce que tu disais, c'est que ça va être ça le modèle économique de ChatGPT.
Ça veut dire qu'il y a plein de devices qui vont taper sur le modèle d'OpenAI à chaque fois que ça fait un aller-retour dans ses agents. Et ça, il facture à l'interrogation de l'API, pour parler techniquement.
Et visiblement, ça facture plutôt pas mal chez OpenAI, puisque en 6 mois, OpenAI a doublé son chiffre d'affaires, les amis, pour atteindre donc 3,4 milliards de dollars. Alors, selon The Information, c'est avant tout les abonnements qui rapportent de l'argent, aujourd'hui, en tout cas. Après, il y a Microsoft qui donne de l'argent à OpenAI. Je crois que c'est 200 millions.
200-300 bon, millions,
sur 3,2 milliards, c'est presque, on va dire, de la rigolade. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a,
Les accords avec les entreprises.
Les accords avec les entreprises.
Je pense pas que ce soit ça qui est.
C'est des abonnements en premier lieu, non, je pense.
Oui, oui, les accords entreprises, ils sont en POC aujourd'hui ou en small
business. Voilà, les accords avec les entreprises. Et quand tu discutes avec des entreprises, elles sont pas dans des factures. Elles sont dans des factures plutôt dans les milliers d'euros que les centaines de milliers d'euros. Hein. Enfin, moi, pour celles que je connais avec OpenAI. Donc voilà, il y a un modèle parce que tout le monde se cherche. Effectivement, on fait des POC, on teste un peu.
On cherche les usages.
Pour voir. Mais oui, c'est surtout aujourd'hui, c'est surtout
pour dépenser 10 000 euros. En inférence sur un système entreprise, il faut faire beaucoup de queries. Une query, ça vaut un millième de centime. Un millième de centime, 0,00.
Quelques géants industriels français, ils m'ont dit ils dépensent 7 000, entre 6 000, 7 000, 8 000, voilà, pour un usage assez intensif quand même.
Et on a une valorisation qui est de l'ordre de 100 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc il faut en faire des queries, des requests à quelques centimes. Et donc effectivement, ça met en perspective le deal avec Apple, c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin, de trouver des nouveaux usages pour les entreprises. Sincèrement, il se passe des choses formidables dans les call centers où on augmente les personnes qui répondent au téléphone. Donc, en termes de satisfaction client, c'est formidable. Mais c'est pas en améliorant la satisfaction client des clients et des call centers et en faisant ce que j'expliquais tout à l'heure des résumés de texte qu'on va être valorisé 100 milliards de dollars. Donc, cette nécessité, et c'est d'ailleurs ce qui était dit par Yann Lequin.
On met en place des business analysts, on fait de la visualisation de données, on fait de l'analyse profonde, on fait de la data science.
Exactement.
Ça, c'est déjà. La création de valeur, c'est important.
Ça existe déjà, mais il faut effectivement que les usages s'en emparent et que les entreprises s'en emparent. Et aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Et donc, c'est ça qu'il faut effectivement construire pour justifier la valo actuelle.
Et puis je pense que la valo actuelle, elle vient aussi de tous les usages que l'on voit. Alors là, c'est surtout avec du Microsoft Cloud, mais c'est ce que ça va pouvoir rapporter derrière.
Elle vient aussi du backup de Microsoft.
Voilà, avec le backup de Microsoft qui va revenir en. Ça va être des revenus supplémentaires. Pour l'instant, c'est assez faible parce qu'il y a cet échange n'est pas encore. On n'en est qu'au début, mais je pense que là,
je suis pas inquiet quand on voit tous les modèles de rétention. En fait, on dit que la croissance, ça vient de la rétention. Le niveau de rétention, l'autre jour, c'était down pendant deux jours. Moi, j'avais des messages de panique partout dans mes emails, quoi, ou dans mes chats. On est devenu ChatGPT dépendant à une vitesse incroyable.
C'était il y a 15 ans, quand on avait une panne de Google ou de Facebook, en fait.
Internet
et ça a pris 24 mois. Enfin, là, je suis pas du tout inquiet pour le futur business model de l'AI. Alors, on verra si OpenAI reste en tête, mais ceux qui vont gagner ce business-là vont dominer le monde et l'économie pendant les 15 prochaines années.
Et notre petit Frenchie, alors, Mistral, il a son épingle à tirer du jeu, à ton avis, ou pas?
Alors, bon, moi, full disclosure, je parle avec des gens qui sont investisseurs de Mistral.
Full disclosure, tu m'as sorti.
Pardon, en français, transparence complète.
D'accord.
Et j'ai fait, notamment, j'étais en Arabie Saoudite il y a 3 semaines avec, sur scène, des investisseurs de Mistral, hein, donc qui vient de chez Y Combinator. Mm-hmm. Et je trouve que c'est hyper brillant, mais le business model reste à définir et on fait trop comme si le business model existait déjà. Donc on a des gens qui vont sur scène et qui disent « moi je suis investisseur Mistral » comme s'ils avaient une médaille. Mm-hmm. Le problème, c'est que si c'est de l'open source, la création de valeur est un challenge monumental et qu'il faut avoir des stratégies de go-to-market qui soient fortes et il n'y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de business model défini. Et quand je leur dis « alors, tu as dit que tu es investisseur de Mistral, entre toi et moi, Sriram, pour ne citer que lui qui est chez Y Combinator, c'est quoi le business model ?» Il me répond « je ne sais pas, il va falloir qu'ils le trouvent, mais ils sont brillants. » Je dis « ils sont brillants. » Et j'en ai eu un autre sous la main l'autre jour qui m'a répondu la même chose. Donc, voilà.
Il n'y a pas de raison que si ChatGPT en trouve un, Mistral n'en trouve pas un aussi rapidement.
Open source versus closed source, c'est pas du tout la même chose.
Je sais bien, mais
Mark Zuckerberg est en train d'enlever tout l'oxygène dans le business open source parce qu'il rend des modèles gratuits extrêmement performants open source. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus qui me permette de gagner de l'argent que ce que fait l'IAMA? Et la réponse à cette question est extrêmement difficile à trouver.
L'IAMA est extrêmement pertinent.
Après, Mistral a moins de dépenses. Hein. Ils sont dans un domaine qui est plus. C'est, ils vont pas taper comme OpenAI sur des modèles, sur des notamment des LLM grand public et tout ça. Ils sont sur, beaucoup sur la génération de code. Et
ils
tout
veulent
ça.
Faire du prix mais, en entreprise, mais la barrière d'entrée dans ce business n'est pas très.
Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Leur grand souci aujourd'hui, c'est
Trouver des clients et trouver un business model.
Trouver les clients, puis surtout.
Parce que là, ils ont levé 600 millions, Fred.
Puis la facturation token.
Pour les États-Unis.
Puis la facturation token, ça va marcher un temps, mais il y a un moment, le token, il a 0,0.
Mais ils sont brillants, la solution technologique est brillante, le business model est un point d'interrogation et
il est plus clair chez OpenAI, tu trouves?
C'est closed source, c'est-à-dire que le code est caché. Oui. Eux, ils courent contre des choses qui sont gratuites. La question, c'est est-ce que c'est Linux ou est-ce que c'est Google? Si c'est Linux, personne ne gagne d'argent avec Linux aujourd'hui. Mais c'est formidable, toute l'humanité y a accès. C'est pour avoir un business model, il ne faut pas être Linux.
Est-ce qu'ils vont rester d'ailleurs open source? Est-ce que,
Ils sont obligés d'en sortir, mais le narratif va être difficile derrière.
Ouais. C'est ça. Ils ont une partie déjà qui n'est pas open source.
Oui, c'est ça. Toute l'idée, c'est de faire payer des.
Mais c'est vrai que leur souci aujourd'hui, et moi je vois quand tu discutes avec des entreprises qui testent tous du Mistral et tout ça, c'est de. Alors ils sont performants. Leur chance, c'est qu'ils ont leur talent, c'est qu'ils ont vraiment un modèle performant et pour plein d'usages. Enfin, je voyais une boîte, ils ont des espèces de portails là, avec selon les choix, on va choisir la bonne IA. C'est souvent vers Mistral que ça se tourne selon les cas d'usage. Donc c'est plutôt performant. Mais derrière, c'est ça, quoi. Si c'est juste la facturation token, va falloir en compter.
Moi, je peux télécharger un modèle à 70 milliards de paramètres et le mettre sur mon serveur local ou sur mon PC très performant.
Pourquoi
je devrais payer pour autre chose?
Mais c'est sans doute ce qui manque chez eux, hein, en termes de. Alors, ils sont suffisamment intelligents pour le savoir ce qui leur manque, mais c'est le chief revenue officer, enfin, c'est celui qui va vraiment regarder le truc à plat et qui va dire, les gars, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, ça va être.
Il faut un modèle enterprise avec un channel. Enfin, moi, s'il y avait une boîte avec qui je voudrais avoir une conversation aujourd'hui, c'est eux. Parce que le business model, on ne peut pas faire semblant qu'il y a un business model quand on parle, quand les investisseurs sont sur scène, etc. Et quand on descend de scène et qu'on a la conversation, on dit non, mais ils sont bright, ils vont le figure out. Ils sont très bright, mais ils n'ont pas figure out.
Je t'avoue que nous aussi, on aimerait bien avoir des conversations avec eux.
On essaye.
Mais c'est compliqué quand même.
Aujourd'hui, Stripe.
Voilà. On parle d'Elon Musk. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on aura le temps? Oui, bien sûr, parce que 5 minutes pour 5 ans.
Une minute, 10 milliards.
Voilà, c'est ça. C'est la rémunération qui visiblement aurait été validée en fait, par les actionnaires. Donc, la rémunération d'Elon Musk s'élève à 56 milliards. C'est évidemment énorme.
Pour Tesla. Alors,
pour Tesla.
Oui, oui.
Simplement Tesla. On est d'accord. Là, on ne parle pas de SpaceX.
Et sur 10 ans, si j'ai bien compris.
Oui, voilà.
C'est étalé sur 10 ans.
C'est pas mal déjà.
Oui, oui, mais...
Non, mais bien sûr, c'est pas 56. Même,
c'est important.
On est d'accord.
Préciser.
Oui, moi même sur 15 ou 20, ça me va.
Bien sûr.
Mais non,
même sur 30 ou 40, il n'y a pas de problème.
Mais la valorisation est de 1000 milliards.
Oui, oui.
Et donc, c'est rien par rapport à la valorisation actuelle.
Oui, c'est clair. C'est
et
clair.
Alors, je lisais qu'effectivement, il y avait un fonds d'investissement, le fonds d'investissement californien, qui s'en émeuvait, et comme d'autres, comme le fonds norvégien, en disant que c'était, que c'était absolument colossal. Mais quand vous regardez en fait les ratios, d'ailleurs c'était évoqué, c'est 140 fois la rémunération moyenne d'un Américain. Quand vous prenez le ratio de Tavares, Stellantis, qui à mon avis est quand même moins disruptif et moins innovant qu'Elon Musk, on est à 540. C'est-à-dire quand vous comparez la rémunération de Tavares sur une année et que vous la comparez avec la moyenne des salariés de Stellantis, vous êtes sur un ratio de 540. Et ça, je suis choquée.
Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs,
pour Elon Musk,
les choux gras de la
presse, c'est quelques pourcents de la valorisation de la société.
Et puis surtout,
donc oui, c'est astronomique et les montants sont incroyables. C'est le budget de la défense en France. Donc c'est invraisemblable. Mais par rapport à la valeur créée,
non, mais tu as raison.
Je trouve que sincèrement,
l'incarnation.
Et puis voilà,
et l'incarnation.
Sans Elon Musk, Tesla.
C'est là où effectivement il est très fort. Il a incarné, personnifié cette marque et il est aujourd'hui en tout cas et certainement pour les prochaines années. Tesla, c'est Elon Musk. On enlève Elon Musk. Tesla, qu'est-ce qu'il en... Enfin, Parce qu'est-ce qu'il en reste, du moins en termes de perception et de message pour le marché et donc de valorisation associée à ça?
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Elon Musk, Lucas, c'est pas le débat, mais c'est quelqu'un qui incarne.
C'est le budget marketing. Tesla n'a pas de budget marketing, ouais. Donc 5 milliards 6 par an, c'est le budget. Moi, je trouve ça outrancier comme. Personnellement,
oui, sincèrement, c'est énorme.
On peut expliquer. Alors, le pourcentage des employés Tesla qui ont des stock options peut-être, mais puis en Amérique, la richesse n'est pas du tout répartie de la même manière.
Donc, bien sûr.
C'est un peu différent. C'est pas certain qu'il touche son argent. Hein. Là, il a fait revoter les actionnaires, mais il est en procès au Delaware et le juge du Delaware n'a aucune obligation d'accepter le vote des actionnaires, donc ça va encore se discuter. Bon, après, c'est de l'argent privé, il la vaut la personne. C'est pas de l'argent public.
Il l'a même créé et il va avoir des objectifs. Donc on ne connaît pas les objectifs, mais il va y avoir des objectifs.
Oui, puis derrière, tu as les gros.
Non, il a déjà réalisé les objectifs. En fait, c'est 2017.
2018.
Donc c'était basé sur l'augmentation de la valorisation.
Là, il est dans les objectifs.
Les gros fonds Vanguard, BlackRock qui sont derrière et tout ça, bon, ça
ils sont pas à plaindre non plus. Enfin voilà, personne n'est à plaindre dans cette affaire, mais
parce qu'il a fait gagner les montants, beaucoup d'argent aux actionnaires, mais les montants sont astronomiques. Je suis absolument d'accord.
Et lui dit que bien évidemment, avec cette rémunération, il fera encore gonfler l'action Tesla et les actionnaires le remercieront. Bon, on verra bien. Mais après la question, alors même si c'est 5 milliards CIRS par an, qu'est-ce qu'il peut faire de cet argent en fait? Est-ce qu'il le réinvestit, par exemple? Est-ce qu'il va rembourser sa dette envers Twitter? Est-ce que c'est pour lancer de nouveaux projets? On sait qu'il était dans une situation financière compliquée avec Twitter, notamment.
Mm-hmm. Il veut aller vivre sur Mars. Ça coûte cher.
Oui, c'est vrai que ça coûte cher.
C'est lui qui est dans une situation compliquée ou c'est Twitter? Parce qu'il a, il est allé...
Il a mis des fonds propres, je crois, non, dans Twitter.
Sur les 40 milliards...
Il y
a 12 ou 18 des banques. Et puis lui,
il doit y avoir des call margins, donc il doit avoir effectivement mis en contrepartie des prêts, de l'argent personnel.
C'est perdu, c'est perdu. Mais là, je ne suis pas sûr qu'il ait des dettes liées à ça. Je ne suis pas certain, peut-être que j'ai une bêtise, mais je pense qu'il a endetté un tas de gens avec.
Mais d'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça qu'il se bat pour cet argent-là. C'est déjà sa caution personnelle. Et puis, je pense que c'est remettre un peu de sous sur...
Sa fortune, c'est 200 millions, hein, juste pour sa valorisation. Donc, c'est un quart de ce qu'il possède déjà. C'est pas non plus... pas dans le besoin. Mais il va certainement le remettre dans d'autres projets, ça, c'est certain.
Si on commence à compiler sa rémunération entre Tesla, SpaceX et puis tout le reste, ça commence à faire beaucoup.
Il vit dans un préfabriqué sur le campus de Tesla, apparemment.
Ah ouais?
Il dort dans les locaux, comme ça.
Il a une tiny house en préfab.
Dans la chaîne de production, il l'avait dit, pendant le Covid.
C'était aussi le cas des fondateurs de Google et de Yahoo à la grande époque. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on n'arrête pas de travailler et d'y réfléchir.
Après, c'est vrai que c'est un personnage un peu particulier, mais ça fait aussi son charme. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ce débrief hyper intéressant, comme à chaque fois. Merci Isabelle.
Merci beaucoup.
Isabelle Bordry, donc cofondatrice de Retency. Merci à Lucas Perraudin.
Merci
Perle d'être passée par le plateau de Tech & Co, experte en innovation digitale, et Frédéric Simotel, qu'on ne présente plus, bien sûr. Et vous restez avec nous. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Pour terminer cette semaine, on va marier santé et tech avec, entre autres, l'avenir du jumeau numérique pensé par l'hôpital américain. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis après, on enchaînera avec une start-up qui s'appelle Moon Surgical et qui va commercialiser son robot chirurgien. C'est passionnant et ce sera dans quelques instants. Vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, revient après cette petite pause. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et un grand merci de passer cette soirée en notre compagnie. Il est 21h05, on est ensemble jusqu'à 21h30, vous le savez. Pour parler tech et direction, tout de suite la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir, avec Salomé Ferrari qui nous a rejoint. Salut Salomé.
Bonsoir François.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau venu dans le secteur de l'intelligence artificielle. Il s'agit de Luma Labs qui a dévoilé son IA qui s'appelle Dream Machine. À quoi ça sert ?
Et oui, hier, la start-up Luma Labs a présenté donc Dream Machine, une intelligence artificielle qui est capable de générer des vidéos ultra réalistes. Alors, c'est le concurrent direct de Sora, hein, la célèbre IA qui, elle, a été créée par OpenAI. Alors, Dream Machine, c'est totalement gratuit et accessible à tous depuis hier. Il suffit de donner à l'intelligence artificielle les indications de ce qu'on aimerait voir, ou tout simplement de lui donner une photo qu'on aimerait voir en image. D'accord. Et elle génère une scène de à peu près 5 secondes, donc avec des personnages, des animaux ou encore des objets qu'elle anime, le tout en moins de 2 minutes. Alors attention, par contre, si c'est, vous avez un compte gratuit, vous ne pouvez générer que 30 vidéos par mois. Alors ça reste quand même suffisant pour un usage un petit peu pour s'amuser ou personnel. Mais si on veut un petit peu plus, il faudra mettre la main à la poche. Et là, les forfaits vont à peu près de $30 par mois pour 120 vidéos à $500 par mois pour 2000 vidéos.
Alors, est-ce que ce Dream Machine, parce que c'est comme ça que s'appelle ce logiciel, a les capacités de concurrencer le fameux Sora, qui est le générateur de vidéos d'OpenAI, qui avait fait grand bruit il y a quelques semaines?
Alors, c'est Dream Machine, c'est déjà assez puissant, mais ses capacités restent limitées. L'entreprise, elle le dit elle-même, donc elle a un petit peu de mal à générer des mouvements, ce qui est embêtant quand on parle de vidéos.
Quand on fait de la vidéo, qu'on n'arrive pas à faire de mouvements, c'est pas bon.
Voilà, ça commence un petit peu mal. Alors, chez Tech & Co, on l'a un petit peu testé, et j'avoue, moi, j'ai un petit peu été déçue. J'ai demandé de créer une tortue, donc, aurait un costume de clown, elle n'avait pas de costume de clown, donc ça commence mal. Ouais. Et j'avoue, les mouvements de la bouche étaient un petit peu imprécis, mais bon, quand même, pour un début, ça reste pas mal. Sachant qu'en plus, donc, c'est tout premier modèle d'IA génératif de l'entreprise, et elle a évidemment assuré travailler pour un petit peu rendre Dream Machine plus efficace. Et elle prévoit déjà de développer d'autres modèles d'IA génératif, notamment le fameux moteur d'imagination qui serait capable de jouer avec les éléments et de créer de nouveaux mondes.
Voilà, ça s'accélère dans ce domaine. Exactement. Des logiciels qui crée des vidéos grâce à l'intelligence artificielle générative. Ça s'appelle Dream Machine. Merci beaucoup, Salomé. Article à retrouver, évidemment, sur le site Tech & Co. Merci beaucoup.
Merci, François.
Allez, on va parler maintenant de médecine et de tech avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et Robert Sigal nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Robert.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes directeur général de l'hôpital américain de Paris et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, un hôpital comme le vôtre, qui est évidemment qui jouit d'une belle réputation, est plongé dans la technologie. Je m'intéressais un petit peu à ce que vous faites. C'est dingue. Vous gravitez autour de start-up. Vous proposez des systèmes hyper innovants pour les chirurgiens pour qu'ils puissent prendre facilement des rendez-vous et caler des interventions chirurgicales. J'ai l'impression, alors on va parler après de ce que vous allez nous présenter maintenant et de ce jumeau de santé, mais d'une manière générale, la technologie, c'est quelque chose qui est au cœur de votre, comment dirais-je, au cœur du réacteur de votre hôpital ?
Oui, absolument. Donc l'hôpital américain, on connaît, c'est un hôpital privé à but non lucratif, qui est numéro un en termes de satisfaction patient, précisément parce que nous nous efforçons depuis toujours d'apporter le meilleur de la médecine française et américaine d'ailleurs à nos patients. Et la médecine vit une époque absolument formidable de révolution biologique, de révolution technologique, et l'hôpital américain se doit naturellement d'être au rendez-vous.
Avec des réglementations quand même qui sont dures, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire n'importe quoi, il y a des certifications qui doivent être mises en place, ça prend des années, c'est parfois un frein, vous imaginez, à l'innovation technologique.
Non, c'est d'abord une garantie de sécurité pour les patients. Par exemple, en matière de sécurité des soins, nous sommes certifiés à la fois par la Haute Autorité de Santé, comme tous les hôpitaux français, mais on est certifiés également par la Joint Commission américaine, qui surveille tous les hôpitaux américains, plus le nôtre, et c'est une garantie qu'on est dans les clous de la sécurité. Donc non, il y a des règles, mais c'est normal pour protéger la santé des gens.
Les start-up, j'en parlais tout à l'heure, vous lancez même des prix prévention innovation. Je crois que vous avez lancé ça l'année dernière.
Absolument. Donc on a lancé un prix uniquement sur prévention et innovation, et on s'attendait à avoir 15 start-up, on en a eu 74. Et ça, ça a été extraordinaire. Ça prouve deux choses. Ça prouve premièrement que la France est un terreau de start-up extraordinaire, et ça faisait vraiment plaisir de voir ces jeunes pousses avec des gens des dynamiques. Et puis bon, c'est probablement l'image de l'hôpital américain qui attire aussi.
Et après, qu'est-ce que vous faites de ces start-up ? Parce que j'imagine qu'il y a eu des élus. Vous les intégrez dans le fonctionnement de l'hôpital, vous leur montrez un peu comment ça se passe. Parce que j'imagine qu'il y a des récompenses. Comment ça se passe ?
Alors c'est exactement ça. Il y avait une petite récompense financière, mais c'était même pas tellement ça. Alors, ce qui était en jeu, c'est que pour les start-up, elles veulent avoir un terrain de jeu. Et donc, on les accompagne, on les met un peu en couveuse, et on regarde avec elles de quelle façon on va le faire pour que ça bénéficie ou pas à nos patients. Donc on est dans ces phases.
Comment vous regardez les autres hôpitaux ? Est-ce que ils essaient de s'inspirer de ce que vous faites, ou est-ce que parfois ça peut être l'inverse ? Vous regardez ce que font les autres hôpitaux pour vous inspirer de ce qu'ils font ?
Alors oui, d'abord il faut toujours regarder les autres. C'est fait partie de la vie de regarder ce que les autres font bien, et les autres nous regardent. Écoutez, là il y a 3 jours s'est tenu un colloque à l'hôpital américain avec nos partenaires américains de l'université de Columbia, de l'université de Cornell, et on a d'excellentes relations avec eux. Ils nous regardent, je crois, assez favorablement, d'où ces collaborations qu'on a avec eux. Et en France, on a également des collaborations avec d'autres hôpitaux qui sont inspirantes pour eux et pour nous.
Alors, vous êtes là ce soir pour nous parler d'une innovation qui est très intéressante. On parle beaucoup de jumeaux numériques dans l'industrie, mais aussi dans la santé. Et vous, vous êtes en train de mettre ça en place pour des patients. Si j'ai bien compris, hein, mais vous allez me couper si je dis une bêtise, c'est que vous allez récupérer un maximum de données du patient suite à des examens et créer un jumeau numérique que vous allez garder, en quelque sorte, c'est ça ?
Absolument. Alors, on l'a fait dans un domaine, l'hôpital américain fait toutes les spécialités médicales, la cardiologie, etc. Il y a un domaine où l'hôpital se distingue depuis toujours, c'est la médecine préventive. On a ouvert un check-up qui fait des examens il y a 33 ans. On était très, très en avance. L'année dernière, on a fait 8000 bilans. Sur ces 8000 bilans, il y a des bilans généraux, les bilans cardiologiques, le bilan gynécologique, etc., etc. Donc, on a assez naturellement décidé de faire porter l'effort dans ce domaine de la médecine préventive. De quoi on parle ? Quand quelqu'un fait un examen chez nous actuellement, on va lui faire toute une série de tests, et puis évidemment, on va être capable de lui dire éventuellement, il faut que vous vous améliorez. Si vous avez par exemple trop de cholestérol, on va lui dire, vous allez faire.
Mais ça, tout le monde peut le faire.
Voilà, tout le monde peut le faire. Alors, où est-ce qu'on va plus loin ? On va plus loin parce qu'on est maintenant dans une démarche vraiment, je n'emploie pas souvent ce mot, mais qui est révolutionnaire, et qui consiste effectivement à créer une réplique virtuelle d'un patient, de quelqu'un qui passe. Qu'est-ce qu'on fait ? On va accumuler des données de ce patient, son histoire, celle de ses parents, son histoire, l'examen clinique, des données d'imagerie, des données de biologie, des données génétiques, et on va reproduire son jumeau, littéralement.
Vous allez agréger toutes ces données ?
Oui.
D'accord. Mais alors, c'est une question toute bête, mais avant, ça ne se faisait pas ?
Non, parce que là, on bénéficie à plein de la révolution technologique et de l'IA. Ce qui fait la force de ça, c'est que non seulement ce seront... on va prendre des données de ce malade-là, de monsieur ou madame Dupont qui viennent, mais des milliers, des millions de données qu'on a, et là, on bénéficie de toute la puissance du deep tech et de l'IA et de la puissance numérique qu'on a, et à ce moment-là, on peut créer, à partir de là, un jumeau de cette personne, et je reviens à cette personne qui a du cholestérol, on peut lui dire, écoutez, chère madame ou cher monsieur, en fonction de vos antécédents, voilà littéralement votre jumeau, dans 3 ans, voilà ce que vous risquez, dans 8 ans, dans 10 ans, voilà ce que vous risquez, et sauf si, et c'est évidemment l'intérêt de faire ça, si on fait attention et qu'à ce moment-là, on prend...
Ou si on entame un traitement.
Un traitement, des mesures préventives. Je reprends l'exemple du cholestérol qui, je pense, parle à tout le monde. Écoutez, si vous faites ça, voilà ce que vous risquez, mais si vous arrêtez, les choses se passeront mieux. Pourquoi c'est important ? Parce que la médecine préventive reste compliquée. Les gens trouvent que c'est un peu général. Oui, ok, mais très bien. Mais pour moi, si on commence à montrer à la personne son jumeau, c'est pas quelqu'un... Non, c'est pas... Vous, voilà ce que vous risquez. Tout à coup, ça parle beaucoup plus. En tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille, en se disant qu'en personnalisant, en quelque sorte, on aura un impact de santé plus important.
Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce que tout ça, c'est encore de l'entraînement ? Vous êtes en rodage ? Ou est-ce que, véritablement, vous suivez des patients avec leurs jumeaux numériques pour prédire, en fait, certaines pathologies qui pourraient se développer dans les années qui viennent ?
Alors, l'hôpital va ouvrir un nouveau bâtiment magnifique l'année prochaine, dans un an exactement. On va tripler la surface du check-up center. On s'apprête à passer de 8000 bilans à 10000, 12000. Et dans ce domaine-là, on a commencé à travailler sur la partie scientifique avec des start-up, avec des grosses industries pour être en mesure, dans les mois qui viennent, de commencer les premiers essais, si je puis dire, là-dessus. Donc ça n'est pas encore actuellement opérationnel, ça le sera dans les mois à venir.
Vous vous êtes inspiré d'un modèle qui existe déjà aux États-Unis ou en France pour créer ce jumeau numérique ?
Alors, des jumeaux numériques existent déjà dans l'industrie. La personne qui est responsable de ce programme à l'hôpital américain s'appelle le professeur Benoît Galix, je voudrais lui rendre hommage. Il est responsable d'un autre gros programme financé par le gouvernement français qui s'appelle MediTwin. Il y a des jumeaux numériques qui existent maintenant, par exemple sur le cancer du côlon ou sur le cœur. Nous, on a un jumeau de prévention. Donc oui, il y a des jumeaux. Maintenant, dans ce domaine-là spécifique de la prévention, à notre connaissance et à la connaissance de nos partenaires américains, c'est unique ce qu'on fait. Maintenant, si c'est unique, un jour ce sera copié. Mais c'est très bien, c'est parfait.
Oui, très bien. Si ça peut évidemment bien sauver sûr. Des vies, c'est l'idéal. C'est parfait. Et puis, rappelons-le, c'est la prévention qui est le plus important aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà, si on arrive à détecter certaines pathologies, même en signaux faibles, avant que ça devienne grave, c'est
alors,
l'idéal.
Alors, la prévention, d'ailleurs, en France et dans beaucoup de pays, reste un peu le parent pauvre. On dépense moins de 2% de l'argent de l'assurance maladie sur la prévention. Et là, il y a quelque chose qui est un peu dommage. Pourquoi attendre que d'être malade pour le faire ? Mais quand on y pense, il y a quasiment un aspect culturel et sociologique, qu'on regarde, un médecin Vous allez chez le médecin quand vous êtes malade. Naturellement, vous n'allez pas chez le médecin quand ça va bien.
C'est une erreur.
Et donc, il y a un changement littéralement d'état d'esprit qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'aussi dans nos programmes, c'est pas seulement de la technique qu'on regarde. On regarde aussi l'accompagnement en travaillant avec d'autres catégories de gens, des sociologues, pour dire qu'est-ce qu'on fait pour que l'acceptabilité par le patient soit meilleure.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait généraliser les check-up, en fait? Il y a même des start-up qui se lancent. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Il y en a une qui se lance qui est très haut de gamme. Et qui vous fait des examens assez poussés pour créer une espèce de jumeau numérique et pour vous dire, bah, attention, des parents qui ont eu certains problèmes de santé, etc., vous devez surveiller, le foie ou les intestins, des choses comme ça.
Mais absolument. Écoutez, absolument. Là-dessus, modestement, c'est aussi la raison d'être de l'hôpital américain, d'être un peu en avance, mais on espère évidemment que ce qu'on fait sera copié, enfin en tout cas sera répliqué, et on espère bien sûr que ces politiques de prévention s'étendra pour le bénéfice de plus de citoyens en France et dans le monde. Au passage, l'hôpital américain a 30% de patients internationaux, et donc on a aussi maintenant dans notre check-up un grand nombre de patients qui viennent du monde entier se faire suivre, et c'est parfait. Et donc oui, que ça s'étende est une très bonne chose, il n'y a pas de doute.
Autre volet technologique qui est passionnant, c'est la robotique dans la chirurgie. J'imagine que c'est un sujet que vous suivez. Est-ce que vous avez des chirurgiens qui, aujourd'hui, utilisent des robots
Absolument.
Au quotidien?
On a des chirurgiens qui utilisent des robots au quotidien. C'est devenu quasiment de la routine. Je ne sais pas si c'est la marque avec laquelle on travaille, mais c'est des robots très connus. Et il y a beaucoup de nouvelles offres qui se développent.
D'accord.
Et c'est normal parce que ça améliore la précision du geste, ça améliore l'éducation des jeunes là-dessus. Donc il n'y a aucun doute que c'est quelque chose d'important actuellement. Aucun doute.
Écoutez,
ce qui s'ouvre de plus en plus, c'est qu'on a commencé sur certains types de chirurgie, dans certains domaines, et ça s'étend de proche en proche, et c'est formidable. Il y a une vraie révolution en médecine, et c'est formidable.
Je vous présente Moon Surgical, qui est justement sur ce sujet. Vous pouvez peut-être rester avec nous. Hein,
on très
en a
volontiers.
Encore pour 8 minutes, peut-être.
Très volontiers.
Vous aurez des questions à poser à notre invitée, Anne Audois, qui est avec nous. Bonsoir, Anne.
Bonsoir, François.
Vous êtes la PDG donc de Moon Surgical. Alors, on vous avait déjà reçu il y a quelques temps de ça.
Il y a juste un an.
Il y a juste un an, et ça avance. Hein. Vous êtes un spécialiste de la robotique dans le domaine de la chirurgie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites déjà?
Avec plaisir. Donc, nous sommes la société Moon Surgical, une société française basée à Paris qui développe un robot qui s'appelle le robot Maestro, qui est un robot d'assistance aux chirurgiens pour la chirurgie laparoscopique, donc la chirurgie minimalement invasive des tissus mous.
C'est-à-dire que au lieu d'ouvrir comme ça, vous faites deux petits trous ou trois petits trous, enfin je sais pas combien, et vous allez
Alors ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, effectivement. Ça s'appelle la laparoscopie ou la célioscopie. C'est le standard of care, donc vraiment la façon de procéder sur la majorité des interventions.
Qui permet des rétablissements plus rapides, etc., etc.
Exactement. Enfin, voilà, qui permet effectivement de limiter l'invasivité du geste et du coup de favoriser la récupération.
Et vous, votre spécificité là-dedans?
Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient assister le chirurgien pendant ses gestes. Ces gestes, effectivement, ont été une révolution pour les patients et ont vraiment significativement amélioré la qualité des interventions, réduit la récupération, comme vous l'avez dit. Mais ils ont, dans une certaine mesure, complexifié ce qu'il y a à faire dans un bloc opératoire, puisque le chirurgien a besoin d'aide pour contrôler ce qu'il voit à l'intérieur du corps humain et pour contrôler la manière dont il peut accéder au tissu, puisque auparavant, dans une chirurgie ouverte, on voyait et puis on pouvait pousser les tissus et puis on pouvait accéder de manière relativement aisée à sa cible.
Donc dans là, une chirurgie, il y a des caméras, j'imagine.
Exactement, il y a une caméra qui va à l'intérieur de l'abdomen et qui doit donc être manœuvrée de sorte à ce que le chirurgien puisse voir ce qu'il a besoin de voir à chaque instant. Et de la même manière, il y a une pince qui généralement vient soulever le foie ou écarter certains organes, de sorte à ce que le chirurgien puisse accéder, disséquer l'organe qui fait l'objet de l'intervention.
Alors votre robot star, c'est Maestro.
Exactement.
Que vous allez, et c'est ça l'actualité, déployer aux États-Unis et en Europe. Vous allez commencer une lente commercialisation limitée, mais c'est déjà un point d'étape très important. C'est ça donc ?
Absolument.
Votre actualité ?
L'actualité, c'est qu'on a reçu la semaine dernière effectivement l'autorisation de la FDA, donc la Food and Drug Administration aux États-Unis, pour commercialiser nos dispositifs. On avait reçu il y a quelques mois le marquage CE, qui est l'équivalent en Europe, et on est dans une phase pilote, donc effectivement lancement commercial contrôlé sur un nombre de sites choisis avec lesquels on travaille. En France, on travaille notamment avec le groupement hospitalier privé Elsan. On travaille avec quelques sites en France et on a traité près de 300 patients aujourd'hui en Europe, en France et en Belgique. Et on va pouvoir faire la même chose aux États-Unis dans les prochains mois avant un déploiement commercial de plus grande ampleur l'année prochaine.
Concrètement, expliquez-nous pourquoi un chirurgien aurait intérêt à utiliser votre solution, en fait. Ça lui permet quoi ? Ça lui permet de gagner du temps, d'être plus concentré sur certains gestes. C'est quoi le
Alors, chaque robot a un peu sa spécificité et sa proposition de valeur. Dans notre cas, effectivement, on vient assister le chirurgien, ce qui est généralement fait par un assistant chirurgical, un aide opératoire. Ce sont des ressources qui manquent aujourd'hui dans les blocs opératoires. Il y a énormément de ressources aujourd'hui qui sont difficiles à trouver et à fidéliser dans les hôpitaux. Donc ça, c'est une partie, effectivement, du problème qu'on vient résoudre.
Donc, ça permet avoir moins d'assistants humains,
c'est ça ? Ça permet effectivement de partager un assistant sur deux salles, comme vous pouvez le faire sur les anesthésistes. D'accord. Ça permet effectivement plus d'agilité dans la manière dont vous utilisez votre staff dans la salle d'op. Ça permet de réduire la durée opératoire et de réduire la variabilité des opérations. Donc, c'est des opérations chirurgicales qui sont plus reproductibles, qui sont du coup mieux contrôlées par les chirurgiens, ce qui permet aussi de les faire passer de manière plus aisée dans un environnement ambulatoire où les patients restent moins longtemps à l'hôpital.
Robert Sigal, on voit que les robots...
Oui, alors moi, vraiment, je me réjouis. Il se trouve que sur le domaine des robots, il y a une société qui est une société américaine qui a une position quasi hégémonique dans le monde. Et moi, franchement, je me réjouis absolument de voir qu'il y a la concurrence qui arrive. Je trouve ça formidable. D'abord, ça va peut-être faire baisser les prix, ça sera formidable. Et ensuite, c'est très bien. La question qui va se poser, c'est comment vous vous différenciez effectivement de concurrents qui, eux, ont des positions très stables. Et dernier point, je me réjouis absolument que ce soit développé en France, parce que pour les hôpitaux à vocation universitaire comme l'hôpital américain, avoir des partenaires locaux français, c'est essentiel. Donc vraiment bravo. Enfin, moi je trouve
Merci.
Ça formidable.
Et venez c'est l'objet voir. Des venez prochains mois. Hein. On a des discussions avec vos chirurgiens, donc on viendra
venez
vous voir.
Venez nous parce que vous pouvez avoir un prochain client, visiblement.
Voir, mais voilà. Non mais c'est exactement l'objet des prochains mois, c'est justement de générer les données, l'évidence clinique qui permet ensuite de justifier en fait d'un investissement. Et vous le disiez, l'accès à ces robots est onéreux et parmi effectivement les choses qu'on propose, il y a la mise en place de nouveaux business models qui permettent que ce soit aussi beaucoup plus démocratique.
Très bien. Ce robot est déjà utilisé en France ?
Oui,
ou pas ?
Ce robot est utilisé en France dans deux sites, à Besançon et à Nice.
D'accord.
Comme je vous l'ai dit, on a traité aujourd'hui près de 300 patients.
Très bien. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les domaines, dans tous les secteurs. C'est quasiment le sujet d'actualité au quotidien dans Tech & Co. Est-ce que l'IA est en train de révolutionner aussi la robotique dans le monde de la chirurgie, à votre avis ?
Absolument. Donc nous, on l'intègre depuis le démarrage. On travaille depuis plus de 3 ans avec un partenaire technique qui s'appelle NVIDIA, qui est assez connu dans le domaine, qui est devenu un investisseur
de
la société
NVIDIA,
l'année dernière.
Fou, hein.
Ils ont effectivement une grosse verticale sur la santé parce que leur technologie peut permettre le déploiement de fonctionalités en temps réel pendant la chirurgie.
Ça s'appelle NVIDIA Holoscan, je crois.
Exactement.
Ça
donc ça, c'est un de leurs processeurs qu'on a embarqué dans notre robot. Et le premier cas d'usage qui est déjà dans notre produit aujourd'hui, qui est utilisé en Europe, c'est justement le fait d'automatiser le positionnement de la caméra, de sorte à ce que celle-ci suive l'instrument décidé par le chirurgien. Donc un instrument actif. Donc le chirurgien n'a qu'à dire, ok, suis mon crochet en l'occurrence, et la caméra va, pendant la durée de l'opération, manœuvrer
l'assister intelligemment.
Exactement, sans qu'il ait besoin manuellement de la repositionner. Donc ce qui permet de libérer un bras.
Robert Sigal.
En matière d'IA, je voudrais vous donner deux exemples pour l'hôpital américain. L'année dernière, on a eu 22 000 examens d'imagerie. La mammographie, toutes les images sont lues en intelligence artificielle. Il y a toujours un radiologue derrière qui vient lire les scanners, etc. C'est une firme française, c'est une start-up française, Incepto. En biologie, on a un partenariat avec Chiro, qui fait aussi que tous les examens de biologie. Donc, toute la médecine est maintenant là. Et c'est un moment, mais vraiment béni. C'est un moment extraordinaire de vivre ça en médecine actuellement. Ouais. Dans tous les domaines, c'est incroyable.
Et les perspectives de recherche en cancérologie, mais, visiblement, vont être totalement.
Vous savez, il y a une petite phrase qu'on dit chez les médecins, c'est que on ne sait pas si l'IA va remplacer les médecins, mais les médecins avec IA remplaceront les médecins sans IA. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Ceux qui seront là sans IA, ils ne seront plus là.
Merci beaucoup à tous les deux et encore bravo pour le succès de Moon Surgical. Merci à Anne-Audouin, vous en êtes la PDG. Et merci beaucoup à Robert Sigal, directeur général de l'hôpital américain de Paris, qui, entraîne l'intelligence artificielle et la technologie dans pas mal de niveaux. Et c'est avec ce sujet passionnant que se termine ce Tech & Co ce soir. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée. On se retrouve bien sûr lundi et d'ici là, n'hésitez pas à retrouver nos replays et nos podcasts bien sûr. À très vite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.